Polysécur, épisode spécial. Cette fois-ci, je vais vous parler tout seul d'une annonce que Apple a faite il y a quelques temps. Quelques temps, par rapport, moi, j'enregistre comme moi que ça va sortir, parce que ça va déjà faire environ moins une semaine que l'information a été rendue disponible. J'ai un peu attendu avant d'en parler, puisqu'il y a certains éléments controversés associés à cette annonce-là qu'Apple a faite. Essentiellement, c'est il y a quatre grands morceaux qui ont été annoncés. Des changements de sécurité qui sont, à mon avis, d'une très grande amélioration sur l'état de la sécurité des systèmes que Apple rend disponible. Et à certains égards, elle va rejoindre ce qui est déjà disponible dans plusieurs autres plateformes. Donc, on tombe à parité au niveau de la protection des informations. L'élément le plus, je pense, important et le plus, justement, controversé dans l'ensemble, controversé parce que, vous allez voir, on va en parler après, là, à la suite, c'est d'avoir activé le chiffrement bout en bout des données prises en backup dans iCloud. Essentiellement, avant, il n'y avait qu'une partie des informations qui étaient prises en backup que dans iCloud qui était chiffrée bout en bout. C'est-à-dire que en ce sens-là, dans ce contexte-là, ça spécifie que le mot de passe est stocké sur l'appareil qu'on possède et non par Apple. Donc, Apple n'a aucune capacité de voir le contenu à ce moment-là. Donc, dans le contexte, c'est comme ça qu'on va en parler du chiffrement bout en bout. Une partie, il y avait comme tout ce qui était Maps, les éléments d'information, le keychain, tout ce genre d'informations-là étaient stockées de façon à ce que Apple n'était pas prêt de voir le contenu. Cependant, d'autres informations l'étaient. C'est comme entre autres, les iMessage étaient visibles et d'autres informations associées à ce genre de choses-là l'étaient également, iCloud Drive et ainsi de suite. Donc, puis là où ça devient controversé, c'est que le FBI avait, ou en tout cas la police en général, la capacité d'aller sur mandat demander à Apple d'ouvrir ces informations-là dans les backups. Parce que s'il était propriétaire, il avait la clé. S'il y a beaucoup de monde qui disent qu'Apple, ça fait des années qu'ils ont développé le concept, mais qu'ils ne l'ont jamais mis en application, probablement sur la base de pression qu'ils auraient reçue du FBI ou des représentants du gouvernement américain ou peut-être des gouvernements étrangers aussi également. Là, mais ça, c'est ce qui circule comme information. Donc là, ils l'ont mis en application. Donc dès lors, Apple ne sera plus capable de voir le contenu de nos informations, à l'exception de calendrier, contacts et courriel dans iCloud, puisque par le fonctionnement même de la plateforme, à ce stade-ci, ils n'ont pas été capables de le faire. Cela étant dit, il y a très peu de fournisseurs qui réussissent à mettre ça dans ces trois composants-là. J'en utilise un qui est Proton, entre autres, le fait. Donc ça, c'est un exemple, mais ce n'est pas nécessairement facile à mettre en œuvre. Donc, à ce moment-là, de voir le poste, fait que ça vient de rétrécir énormément la fenêtre de visibilité par Apple du contenu. C'est même à ça, c'est ce moment où j'enregistre, je pense que Google vient d'annoncer qu'il le faisait dans les courriels. Fait que ça se fait, mais ça a certaines complications qui sont associées avec ça. Fait que, en tout cas, bref, ils ne sont pas rendus là. L'autre élément très important, l'activation n'est pas disponible pour le moment pour les personnes hors des États-Unis. Ça va se faire au courant de 2023 pour le déploiement mondial. À l'heure actuelle, ça doit être disponible ou sur le point d'être disponible aux États-Unis de façon massive. Donc, cet avantage-là, c'est super intéressant. C'est opt-in, c'est-à-dire que ce n'est pas par défaut. Fait que ça, en même temps, on sait que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui, en tout cas, c'est très, dans le fond, très peu de monde qui vont spontanément activer ce genre de composant de sécurité-là, considérant la complexité, c'est caché dans les configurations. C'est quand même assez loin pour aller le trouver. C'est pas simple. Dans le fond, c'est un peu notre responsabilité comme professionnel en cybersécurité ou en protection de la vie privée de sensibiliser les gens autour de nous qui veulent activer ce genre de paramètres-là, justement pour permettre d'augmenter la protection de leurs informations face à une fuite de données potentielle. Puis c'est l'autre aussi, l'autre aspect, puis moi où je me situe pas que j'ai des choses à cacher particulièrement, mais ça, c'est ce genre d'approche-là, elle est corrosive en termes de discussion. Mais juste le fait que je me protège contre n'importe quel fournisseur qui aurait une fuite de données, puis ensuite, justement, la protéger. On en a vu dernièrement des fuites de données où justement le fait que les informations étaient chiffrées bout en bout ont protégé potentiellement les informations des clients confiés. Donc, c'est bien au-delà du fait qu'on ne veut pas que le fournisseur regarde ou qu'on veut être absolument caché quelque chose. Il y a aussi le fait qu'on protège et qu'on ne tente pas à cession des moyens. dans lequel on est capable de protéger nos informations davantage, donc on n'est pas à la merci d'un fournisseur qui aurait peut-être eu des manquements au niveau de ses protocoles de sécurité. Donc, c'est un peu dans cet aspect-là. L'autre chose aussi, pour savoir, puis j'en avais fait mention, entre autres sur Zoom, quand on active le chiffrement bout en bout ou dans d'autres contextes, il faut aussi savoir qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités de souplesse qui disparaissent. Donc, c'est aussi il y a un coût à ce chiffrement-là. Et il y a un coût en termes de capacité qu'on a de collaborer ou d'éléments comme ça. L'exemple que j'utilise, parce que c'est avec cette plateforme-là que je travaille principalement dans ce contexte-là, Proton permet très peu de choses. En termes de collaboration, on peut réduire. Donc, c'est beaucoup plus lourd et c'est beaucoup plus complexe. Ou comme on regarde avec Zoom, par exemple, quand on active le chiffrement bout à bout, il y a beaucoup des options qui sont, à certains égards, les plus funky, qui deviennent indisponibles. Et la celle la plus marquée, la plus visible, c'est celle des breakout rooms, par exemple, qui disparaît. Parce que c'est des fonctionnalités serveurs. Serveurs n'ont plus accès. Donc, à ce moment-là, ils ne sont plus capables de créer cette simulation de petites pièces ou de petites rencontres à côté. Donc, c'est un petit élément comme ça. Et finalement, on met dans l'entière responsabilité de la gestion des clés dans notre côté. Ça aussi, c'est un peu un problème, si on veut. Parce que si on perd les clés, on perd définitivement le compte. Ça m'est arrivé avec Proton, entre autres. Ça m'est arrivé dans d'autres occasions d'avoir perdu mes clés. Puis j'ai perdu le mot de passe, je perds le mot de passe. La clé de chiffrement devient inaccessible, le contenu devient perdu pour toujours. Donc, à ce moment-là, c'est de le savoir correctement. Dans ce cas-ci, Apple a quand même mis des mesures en place. Je n'ai pas pu les tester parce que ce n'est pas encore disponible au Canada. De savoir comment on opère ces éléments-là de récupération qui sont associés. Ce qui en dit, je pense qu'on a comme certaines options, puis Apple nous incite ou même nous oblige à aller vers ces mesures de récupération-là, justement pour pas qu'on se peinture dans le coin. Fait que c'est un peu la force d'Apple à ce moment-là de s'assurer de ce genre de choses-là. Ça, c'est bref, très, très agréable. Puis je trouve ça très important de le mentionner parce que c'était une des faiblesses du système de, entre autres, iMessage, qui le rendait pas suffisamment sécuritaire pour des communications de haute sensibilité, contrairement à un système comme Signal qui, lui, protégeait vraiment ces informations-là de bout en bout avec aucune capacité. Fait que là, on se retrouve dans un contexte où iMessage, puis l'autre amélioration va justement rappuyer cet élément-là davantage où iMessage est vraiment rendu, à mon avis, à ce stade-ci avec ces informations activées, parce que c'est pas tout le monde qui les active, à un niveau quasi équivalent à Signal en termes de sécurité dans l'ensemble. Le second amélioration qui est vraiment spécifique à iMessage, c'est les Contact Key Verification, qui sont essentiellement ce qu'on voyait en signal Android. Je ne sais pas dans les autres plateformes si c'est utilisé ou Telegram ou Trello l'utilise également, ce modèle-là. Mais quand on change d'appareil téléphonique avec Signal, nos contacts sont avertis que ce n'est plus le même appareil, donc on a changé. Apple a déployé un système similaire avec iMessage. Fait qu'à ce moment-là, quand un appareil qui s'ajoute au compte Apple ID ou qu'il y a une modification de ce type-là, nos contacts sont informés de ce genre de modification-là. Donc, à ce moment-là, on est capable de voir si un appareil voyou qui s'est joint à la conversation. Puis c'était une stratégie qui était théorique parce que j'ai pas vu de document qui mentionnait qu'elle avait déjà été exploitée, mais qu'on pourrait ajouter un appareil voyou à un compte et à ce moment-là d'intercepter tout l'ensemble des communications. En général, quand on ajoute un appareil à un compte Apple ID, bien, chaque appareil du compte reçoit un message comme appareil X vient de s'ajouter au compte. Maintenant, on peut recevoir tout voir un message et FaceTime. Donc, on a quand même cet avertissement-là côté utilisateur. Mais face à une personne tiers, on n'avait pas cette information-là qui était rendue disponible. Donc, maintenant, ça va être rendu disponible aussi à cette personne tiers-là qui va être capable de voir si on a eu des modifications qui ont été effectuées à notre compte et potentiellement des modifications qui auraient pu être toxiques ou de gens qui veulent s'insérer dans notre ligne de communication. Puis ça peut aller jusqu'à des conjoints jaloux ou des éléments comme ça aussi qui viennent s'insérer ou comme ça. C'est pas juste dans un cas d'espionnage ou de très haute des comptes de journalistes qui font du reportage très, très critique et très, très à risque. Donc, il y a aussi ces éléments-là qui sont faits. Fait que ça, c'est agréable de voir ce genre de choses-là s'inscrire dans des produits plus grand public que Signal. Puis il ne faut pas se. pas se le cacher, c'est pas nécessairement facile de faire migrer tous les gens vers ce genre de plateforme-là. Mais en même temps, c'est l'avantage d'être multiplateforme et pas juste d'être avec Apple, d'être avec Android, entre autres. Fait que on est capable de se communiquer avec des gens sur plus que la seule plateforme de Apple. Donc, il y a quand même cet avantage-là qui est non négligeable également, mais qui est quand même pas facile d'accès, en tout cas pas intuitif, contrairement disons, à ce qui est intégré dans les gens qui sont plus dans l'écosystème Apple, où tout naturellement, on va aller vers ce genre de choses-là, mais bon, il y a encore quelques zones où il faut quand même des manipulations, fait que c'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont embarquer là-dedans. Donc aussi, ça fait que peut-être la préoccupation que pourraient avoir les corps de police d'une diminution de visibilité ou d'accès à de l'information, n'est pas tant. Tant que ça va être une certaine population. Et en même temps, je suis d'avis, mais tu sais, il va falloir qu'on me l'explique aussi. Là, j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi la police insiste tant que ça d'aller sur ce chemin-là, quand qu'avant, il y avait d'autres méthodes d'enquête qui, je crois, devaient être d'égale efficacité. Parce que bref, j'ai peut-être pas assez d'informations pour pleinement comprendre leur position puis pourquoi ça les chatouille. À ce point-là. Ensuite, il y a l'ajout de la Security Key qui est essentiellement rajouté à même l'appareil une clé physique de type probablement FIDO 2. Je n'ai pas lu le détail au complet, mais de ce que j'ai vu dans les différents documents qui me sont accessibles, ça ressemble beaucoup à une clé FIDO 2 ou de cette nature-là, comme les clés Titan, YubiKey, et ainsi de suite, qui sont de cette nature-là, ce qui fait qu'on est capable de stocker en plus de notre appareil sur une clé tiers, un module de vérification, ce qui augmente encore plus notre sécurité parce qu'en maintenant, on vient détacher la sécurité de l'appareil lui-même. Donc, à ce moment-là, on se trouve dans un contexte où on est plus loin, ce qui fait qu'on est capable de protéger davantage nos comptes, on est capable d'aller plus loin. Puis, dans le cas de perdre un appareil, c'est un peu plus facile dans le cas des appareils Apple parce que la façon qui est liée, si on parle le téléphone principal où on a juste un appareil Apple, par exemple, on n'est plus capable de facilement récupérer le compte parce que c'est beaucoup plus ardu et beaucoup plus désagréable. Fait que si on a un seul appareil, ils ont juste un téléphone, on n'a pas un ordinateur ou un iPad, mais à ce moment-là, on va être capable avec cette clé-là de quand même interagir tout en augmentant, en ayant un moyen qui est extérieur à l'appareil pour justement réactiver un compte à iCloud et tout ce qui va avec. C'est vrai, j'ai oublié de mentionner pour le chiffrement à bout à bout, il y a certains éléments de collaboration dans iCloud qui ne sont pas couverts. Donc, si on a des choses dans iWork qu'on utilise, ne sont pas couverts par la protection bout en bout parce que naturellement, ça ne s'interopère pas facilement comme ça. Du coup, minimalement, Apple n'a pas encore développé les moyens pour le faire. Puis, il y a un certain nombre de choses au niveau un accès web également qui ne sont pas nécessairement parce que le chiffrement est vraiment lié à l'appareil. Fait que, bref, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont non couverts. Et finalement, la quatrième nouvelle, qui est un peu moins relative à la sécurité elle-même, mais j'avais quand même enregistré un épisode il y a quelques temps sur l'ajout de la vérification CSAM sur les appareils. Le gros malaise qui est associé avec cette vérification-là, c'est que Apple se donnait le droit d'inspecter le contenu de notre appareil. L'objectif est louable, puis c'est pas ça le problème, c'est juste de réussir à mettre un élément de vérification sur nos appareils qui, dans le fond, vient faire une forme d'invasion non légitime à la vie privée. Si on regarde nos différentes lois, généralement, ils servent à nous protéger contre cette fouille abusive qu'on pourrait dire. Là, c'est sûr que là, c'est une entreprise privée, c'est pas exactement les mêmes choses, mais ça le file comme ça pour moi, cet élément-là de vérification-là qui est faite sur l'appareil. Donc, on perd le contrôle d'un appareil qu'on possède. En fait, c'est comme d'avoir des caméras chez soi qui vérifient ce qu'on fait. Toujours en essayant d'attraper un petit pourcentage de gens en surveillant la majorité des gens. Fait que ça, de nouveau, je pense, dans nos sociétés occidentales, en général, on est un peu inconfortable avec cet élément-là. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont abandonné. Cependant, je n'ai pas lu ce que ça comporte parce que dans l'absolu, il faut quand même protéger les enfants et cette base de données-là sert entre autres à ce type de choses-là. Donc, ils ont peut-être trouver des moyens qui n'ont pas encore communiqué sur la façon qu'ils vont réussir à rehausser l'interception de ces informations-là dans la mesure où c'est utilisé dans les appareils Apple à ce moment-là. Puis, bref, jusqu'à présent, ils disent que c'est sûr que ça passe en main, ça va être intercepté. C'est naturel parce qu'ils ont la visibilité. Mais dans un contexte où ce n'est pas ça, ben comment tout ça est fait? Bref, ça aussi, ça va être important de voir. Puis c'est un à mon sens, un sujet, le système en soi, épineux, puisqu'on se dirige vers justement un monde de plus en plus chiffré en bout en bout, justement parce que les gens veulent reprendre possession de leur sécurité, ce qui est une bonne chose. Mais les outils de vérification massifs qu'on a actuellement, les présomptions qu'on a jusqu'à présent, devront évoluer dans la même direction pour trouver d'autres moyens pour réussir à intercepter ces criminels-là et de réussir à protéger les enfants correctement de façon plus importante que qu'est-ce qu'on fait en même temps. Fait que bon, je suis un peu curieux de voir comment les choses vont se dérouler, mais oui, on n'a pas encore trouvé la solution parce que je crois pas que l'invasion à la vie privée de la majorité des citoyens vaut la peine pour ce genre de choses-là quand il y a des moyens peut-être plus précis et plus directs pour aller chercher les choses. Donc, bref, c'est un peu ça. Ça fait le tour de cette nouvelle-là. C'est intéressant. Je pensais que je trouvais ça important de communiquer parce que ça s'est diffusé dans les cercles qu'on connaît, mais c'est peut-être pas difficile plus large. Je pense que ce serait important que quand la disponibilité avec les gens commence à se familiariser avec cette approche-là, parce que ça a quand même un certain nombre de maîtrises à avoir là, pour le niveau du chiffrement bout en bout pour les backups, les données, puis ainsi de suite. Donc, d'habituer les gens, puis s'assurer qu'ils prennent les bonnes mesures et se protègent adéquatement, puis ne se font pas avoir qu'ils sont capables de faire du recouvrement de leur compte s'ils devaient avoir un problème, ils oublient leur mot de passe, puis ça nous arrive à tout le monde. Encore plus aux gens qui sont en dehors du monde de la cyber, donc justement de les préparer correctement pour migrer vers ce genre de choses-là. Mais tu sais, de toute apparence, comme Apple ne l'a pas mis par défaut, ben bref, c'est juste parce que c'est pas encore tout à fait, on pourrait dire, mature pour ce genre d'usage-là, grand déploiement.